Seigneur, nous te remercions pour ta présence. Te remercions pour la paix que tu donnes à tes enfants, à ceux qui se confient en toi et qui obéissent à ta voix. Seigneur, nous sommes encore devant toi maintenant. Nous t'avons béni et tu nous bénis aussi en retour. Car c'est ta nature de donner, de bénir. Seigneur, bénis encore ta parole maintenant. Tu as encore quelque chose à nous dire, Seigneur. Un mot personnel. Je te demande de oindre chaque parole qui seront dites, Seigneur. Je compte uniquement sur l'action du Saint-Esprit pour que chaque parole soit ointe du Saint-Esprit. Je ne mets pas ma confiance dans la chair. Seigneur, je compte uniquement sur le ministère du Saint-Esprit qui conduit dans toute la vérité et qui glorifie Jésus. Merci, Seigneur. Nous sommes ton peuple et tes enfants. Bénis ta parole et bénis ces instants. Reste avec nous, Seigneur, jusqu'au bout. Nos cœurs t'adorent pour ta grande fidélité. Loué sois-tu de tout notre cœur, Seigneur. Amen. Gloire à ton beau nom, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Il est bon d'être avec lui. Il est bon de goûter sa présence, de jouir de sa présence. Amen. Nous avons besoin de jouir de la présence de Dieu. Que son nom soit loué. Alléluia. Donc après ce message, nous prendrons du temps pour prier pour toutes les personnes qui le désirent, quelque besoin que ce soit, et nous croyons que le Seigneur étendra sa main. Et pour le message, qui sera un message qui va aussi, j'espère, nous aider à commencer bien l'année. Pour commencer bien cette année, selon la parole de Dieu, il nous faut avoir la mentalité d'un vainqueur. Amen. La mentalité d'un vainqueur. Si nous n'avons pas la mentalité d'un vainqueur, nous n'irons pas loin. À celui qui vaincra, je donnerai. À celui qui vaincra, je donnerai. Les chrétiens qui seront présents au retour du Seigneur, seront des vainqueurs. Quelle est la mentalité d'un vainqueur pour cette année et pour les années qui viennent? Nous allons le voir maintenant, si vous le voulez, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12. Épître aux Hébreux, on peut lire déjà les trois premiers versets, si vous le voulez. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe facilement, si facilement, et courons. Vous voyez là, il est question d'un athlète qui court, la mentalité d'un vainqueur, d'un athlète, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Jésus est notre exemple ici. Il est dit qu'il s'est assis sur le trône, à la droite du trône de Dieu. Mais pour y arriver, cela n'a pas été facile, n'est-ce pas vrai? Cela n'a pas été facile. Pour arriver jusqu'à ce trône, il fallait que le Seigneur ait la mentalité d'un vainqueur. Vous êtes d'accord avec moi? Si nous n'avons pas cette mentalité d'un vainqueur, alors nous n'arriverons jamais à vaincre. Et quelle est cette mentalité quelles sont les qualités d'un vainqueur. Puisqu'ici, il est parlé de quelqu'un qui court dans la carrière. C'est comme l'image d'un athlète qui court pour remporter le but. Il court pour remporter. Aucun athlète, aucun sportif ne court sans décider dans sa tête qu'il veut être un vainqueur. S'il court déjà en disant « Oh, ça fait rien si j'arrive le troisième ou le quatrième », vous croyez qu'il va gagner une victoire celui-là, qu'il va gagner une course? Jamais. Tous ceux qui courent sont tous décidés à gagner. Tous. Si nous courons, mes amis, nous devons courir dans l'esprit d'un vainqueur, dans l'esprit de la victoire. Mais il y a des règles pour cela. Un athlète ne court pas comme il veut. Hein? S'il y a un 400 mètres et puis qu'il faut faire, il faut tourner, il y a la courbe, et puis il y en a qui disent « Oh là là, comment ? Tiens, ça court, c'est un peu trop long. Moi, je vais prendre le raccourci. » Il arrivera le premier là-bas, mais qu'est-ce qui va se passer? Et toi, va vite dans ta cabine, tu n'as pas couru selon les règles. Il faut courir selon les règles pour remporter la victoire. Alors ici, il y a plusieurs règles, ou j'allais dire plusieurs obstacles que nous devons surmonter pour avoir cette mentalité d'un vainqueur. Plusieurs obstacles. Au verset 1, il est dit, nous donc, nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau. Tout obstacle, tout ce qui pourrait nous empêcher d'être un vainqueur ou de remporter la victoire. Un athlète, vous l'avez remarqué, quand un athlète, quelqu'un qui fait le 100 mètres ou le 200 mètres ou le 800 mètres, est-ce qu'ils ont un sac tyrolien derrière le dos? Vous avez déjà vu qu'un athlète qui fait le 100 mètres avec un sac tyrolien? Même pas, pas ça. Même pas un peigne derrière la poche. Même pas un peigne. Même pas un mouchoir. Rien. Aucun fardeau n'est permis. Il faut être le plus léger possible. N'est-ce pas vrai? Parce qu'un mouchoir, c'est pas lourd au début. Vous êtes d'accord avec moi? Mais si vous devez faire 1000 mètres, eh bien ce mouchoir qui pèse 20 grammes au départ, vous avez l'impression qu'il fait 2 kilos à l'arrivée. Au départ, c'est pas lourd, mais au bout de la course, vous avez l'impression que ce poids-là augmente. C'est pourquoi, si nous voulons remporter la victoire, il faut enlever tous les obstacles. Il faut être discipliné. Discipliné. Sans discipline, il est impossible d'avoir cette mentalité d'un vainqueur. Oh, je cours, ben, j'espère que j'arriverai. Je pense que ça ira. Non, mes amis, il y a des obstacles. Quels sont ces obstacles? Alors, dans le passage qu'on a lu, et ensuite un peu plus loin, dans tout ce chapitre 12, il est question de plusieurs obstacles. J'en ai noté 7 ici. J'espère que j'arriverai à tous les donner. Je ne vais pas trop les commenter parce qu'on est là jusqu'à 7 heures. Mais je vais quand même tous vous les donner, et vous les méditerez, commenterez à la maison vous-même. Premier obstacle. Si nous voulons avoir la mentalité d'un vainqueur, le premier obstacle se trouve au verset 1er. Il est dit « Rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec quoi ? Avec persévérance, dans la carrière qui nous est ouverte. » Alors, premier obstacle, un coureur qui n'a pas cette mentalité d'un vainqueur, c'est le manque de persévérance. Voilà un premier obstacle qui empêche beaucoup de chrétiens à remporter la victoire. On commence bien, mais on n'arrive pas à aller jusqu'au bout. Moi, je me souviens à l'école, quand on faisait des 1000 mètres et tout, j'étais champion pour bien commencer. Je commençais très bien, j'étais dans les premiers, je les bats tous ceux-là. Mais au bout de 300-400 mètres, et puis ça commençait à passer devant moi. Je commençais bien, mais je finissais très mal. Premier obstacle, le manque de persévérance. La vie chrétienne n'est pas comparée, ici dans le passage en question, à une course de vitesse, où on fait un 100 mètres, et puis on arrête. La vie chrétienne n'est pas comparée à un 100 mètres, la vie chrétienne est comparée à un marathon. C'est une course d'endurance, pas une course de vitesse. Amen. Une course d'endurance, c'est la persévérance. Ce n'est pas le tout de bien commencer, il faut bien finir. Il y en a beaucoup qui commencent bien, mais qui finissent mal. Donc si nous voulons avoir cette mentalité d'un vainqueur en ce début d'année, et chaque année, il nous faut ôter cet obstacle. Ce caillou, c'est un caillou qui est là dans notre poche, qui nous dérange. Qui nous dérange. Qui est ce manque de persévérance. On commence beaucoup de choses, mais on n'achève rien du tout. Il y a beaucoup de projets, il y a toujours beaucoup d'idées. Ah, mais moi, vous verrez, à votre place, moi, je ferai ça. Qu'est-ce que c'est ? Ça dort ici dans cette église. Combien il y en a qui commencent comme ça ? Ça dort ici. Vous allez voir maintenant, moi, je vais amener le réveil. Alors ça bouge, vous avez l'impression que ces gens-là, ils vont amener le réveil. Alors pendant un mois, ça secoue, ça remue. Vous allez voir, je ne sais pas, vous êtes pauvres qui, vous savez rien du tout. Moi, vous allez voir ce que vous allez voir. Alors pendant un mois, ça bouge, on a l'impression que ça y est, c'est le feu qui vient. Dès que les premières difficultés arrivent, le feu commence à diminuer. Et celui qui voulait soi-disant amener le feu, un mois et demi, deux mois, au bout de deux mois, la flamme a disparu. Il n'y a plus rien du tout. Plus rien du tout. Quel est l'obstacle ? Quelle est cette pierre ? Quel est ce fardeau qui le tire en bas ? Ce manque, un manque de persévérance. Imitez ceux qui par la foi et la persévérance héritent les promesses. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Mon frère, ma sœur, la victoire est pour celui qui persévère jusqu'au bout. Il y en a beaucoup qui commencent beaucoup de choses. Beaucoup. Ça fait bientôt 30 ans que je suis dans le ministère et je me suis aperçu de beaucoup de choses. Il y en a beaucoup qui ont commencé beaucoup de choses. Mais maintenant, il n'y a rien du tout. Il y a une règle qu'ils n'ont pas observée. C'est que lorsqu'on commence vraiment quelque chose, il faut aller jusqu'au bout. Si nous voulons remporter la victoire. Donc ce n'est pas le tout de bien commencer. C'est pourquoi Jésus dit, quand tu veux bâtir quelque chose, il dit, assieds-toi, prends du temps, calcule un petit peu, si tu peux aller jusqu'au bout. Si tu ne peux pas aller jusqu'au bout, il vaut mieux ne rien faire que de commencer et puis de... Donc la première règle est celle-ci, mon frère, ma soeur. La mentalité d'un vainqueur, c'est ça, un vainqueur. Vous avez vu un athlète quand il court, il n'y a rien qui l'arrête. Rien, il est décidé à aller jusqu'au bout, n'est-ce pas vrai ? Ceux qui vont aux Jeux Olympiques, c'est pas n'importe qui. Un athlète du matin au soir, chaque jour, qu'il pleuve, qu'il fasse soleil ou qu'il fasse n'importe quel temps, l'athlète, il est toujours dehors pour s'exercer. Il n'y a rien qui l'arrête. Tandis que l'autre, il veut aller aux Olympiques. Quand, tant qu'il fait beau, oh, une belle matinée de printemps, il fait beau. Alors il sort, le lendemain il pleut, il fait du vent, oh là là, je reste au lit ce matin. Non, aujourd'hui, ça ira mieux demain, mais je reste au lit. Et chaque fois que le temps est défavorable, chaque fois qu'il y a quelque chose qui vient se mettre en travers, ça le décourage. C'est un fardeau qui est là, pesant. Et il ne part nulle part. Est-ce que vous croyez qu'une telle personne, un tel athlète, entre guillemets, peut arriver aux Olympiques ? Personne. Certainement pas. Mon frère, ma sœur, voilà une première règle. Un premier obstacle à enlever. Lorsque nous faisons quelque chose, lorsque nous sommes convaincus que cette chose vient de Dieu, alors allons jusqu'au bout. Amen. Persévérons. Ce n'est pas le tout de bien commencer, il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout. La victoire est pour celui qui persévère. Alléluia. Et oui, écoutez-moi bien, mes amis. Le plus faible d'entre nous, s'il est persévérant, Dieu l'utilisera puissamment. Le plus faible d'entre nous, le pauvre type, la pauvre fille, on se moque peut-être de toi. Tu n'es rien du tout. Tu es un garçon, un jeune homme, un homme. Tu n'as pas beaucoup d'éducation, tu n'es rien. On se moque peut-être de toi. Et on pense que toi, tu ne pourras jamais rien faire. Mais laissez-moi dire une chose. Si Dieu vous a montré quelque chose et que vous êtes persévérant, Dieu vous utilisera. Dieu vous utilisera. Tandis que l'autre qui a toutes les capacités, qui est intelligent, qui a beaucoup de facilité, de parler, d'administration, enfin tout, tout, tout. Il commence bien, mais il n'y a pas cette qualité indispensable qui est la persévérance, la ténacité. J'irai jusqu'au bout. Amen. C'est très important. Très important. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de la vie. Alléluia. Persévérons, mes amis. Mais ôtons cet obstacle du manque de persévérance. Persévère. Ne te laisse arrêter par rien du tout. Tu auras des obstacles. Si tu penses que tu n'auras pas d'obstacles, tu es irréaliste. Tu te fais des illusions. Tu vis dans les nuages. Il ne faut pas vivre dans les nuages. Il faut vivre sous la nuée. Ça, c'est autre chose. Sous la nuée, c'est bon. Mais dans les nuages, ce n'est pas bon. Alléluia. Il y en a trop qui sont dans les nuages, mais pas assez sous la nuée. Descends de tes nuages et place-toi sous la nuée. Alléluia. Gloire à Dieu. Bon, allons un peu plus loin maintenant. Deuxième fardeau. Quel est ce deuxième fardeau qui toujours nous écrase et nous empêche vraiment de nous élancer, de faire démarrer l'avion, j'allais dire, de faire décoller l'avion. Deuxième obstacle. Il est dit ici, et courant avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus. Dans le texte grec, il est dit ici, quand il est dit « ayant les regards sur Jésus », le texte grec veut dire « détournant les regards de toute autre chose pour les fixer que sur le Seigneur Jésus ». Alors le deuxième obstacle est celui-ci, c'est le regard sur l'homme. Quand nous regardons sur l'homme, alors nous n'irons pas jusqu'au bout et nous ne remporterons pas la victoire. Ayant les regards sur Jésus et non pas sur l'homme. Combien se sont arrêtés? Combien sont sur la touche maintenant? Parce qu'ils ont été déçus de l'homme. Tu as été déçu de l'homme? Eh bien moi je te dis alléluia. Comment alléluia? Pas chute ça. Tu as été déçu de tel frère, de telle sœur, de telle personne. Mais gloire à Dieu! Ça c'est la plus grande nouvelle qui puisse arriver, la plus grande expérience qui puisse arriver. Tu as été déçu, mais gloire à Dieu! Heureusement que tu es déçu! Il est temps que tu sois déçu. Il est temps. Pourquoi? Pour que tu ne regardes pas à l'homme. Malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Mais bienheureux est l'homme qui se confie dans l'Éternel. Amen. Et Dieu veut t'apprendre cela. Tu seras déçu des hommes. Mais tu ne seras jamais déçu du Seigneur. Tant que tu regardes à l'homme, tu seras arrêté. C'est un fardeau terrible. Le regard de l'homme, la crainte de l'homme, le qu'en dira-t-on ? Ça, c'est quelque chose de terrible. Certains sont littéralement liés par le qu'en dira-t-on. Le qu'en dira-t-on ? C'est trop pour eux. Ils veulent bien faire quelque chose, mais l'homme, il regarde bien sur le Seigneur, mais il regarde une fois au Seigneur et puis sur les hommes. Alors, il louche continuellement. C'est les chrétiens qui louchent, voyez ? Vous pouvez regarder dans deux directions à la fois. Si vous faites ça longtemps, vous allez loucher. Non. Nous devons regarder au Seigneur et ne pas mettre notre confiance dans l'homme. Amen. Combien sont déçus à cause de cela? Ah, j'ai cru que lui était meilleur qu'un autre. J'ai cru que elle était meilleure qu'une autre. J'ai cru. Mais je suis déçu. Frère, priez pour moi, je suis déçu. Il n'y a pas besoin de prier pour toi. Enlève cette pierre de ta poche. Dieu a permis cette épreuve, cette déception. Il y a des déceptions qui sont bénies. Amen. Il y a des déceptions qui sont bénies. Dans ma propre vie chrétienne, j'ai réalisé une chose. Tous ceux en qui je m'étais confié, je veux dire, où je regardais à eux pour qu'ils m'aident d'une manière ou d'une autre. Tout cela ont tous disparu de la circulation. C'est comme si Dieu me disait, si tu comptes sur eux, je les enlèverai de ton chemin. C'est sur moi que tu dois compter. Et ça, je l'ai vu constamment, constamment. C'est un fardeau terrible, le regard sur l'homme, ayant les regards sur Jésus. Donc il faut détourner nos regards de tout ce qui nous entoure pour les fixer que sur un seul, sur Jésus. Amen. Sur Jésus. Regarde Jésus. Si tu regardes à Jésus, il t'inspirera, il t'encouragera, il te relèvera, il te fortifiera. Il est à la ligne d'arrivée là-bas et il te dit, ah, vas-y, continue, je t'attends, je te mettrai la couronne. La couronne, je l'ai, va, mais va jusqu'au bout. Et vous savez, quand il est dit ici, au verset 3, il est dit, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Dans le texte original, on pourrait dire, afin que vous ne tombiez pas avant la ligne d'arrivée. Le Seigneur ne veut pas qu'on tombe avant la ligne d'arrivée. On peut tomber, mais après la ligne d'arrivée. On peut tomber, mais dans les bras de Jésus. Alléluia. Alléluia. Et le Seigneur nous attend. Il nous dit, continue, te laisse pas arrêter. Tu regardes, mes bras sont grands ouverts. Le réconfort que tu vas avoir dans mes bras sera ta plus grande récompense. Et tu vas oublier en quelques instants toutes les souffrances que tu endures maintenant. Une simple parole de ma part, cela va bien, bon et fidèle serviteur, va te consoler pour l'éternité. Alléluia. Amen. Deuxième obstacle. Beaucoup sont arrêtés par cet obstacle-là, l'homme. Parce qu'il regarde à l'homme, au lieu de regarder à Jésus. Ne regarde pas à l'homme. Regarde à Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Allons un peu plus loin. Au verset 2, qu'est-ce qu'il est dit ? Qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix. Troisième obstacle qu'il faut enlever de nos poches, la pierre, c'est le refus de souffrir. Souffrir. Jésus a souffert la croix. L'athlète, s'il veut remporter des victoires, passera par des difficultés, par des épreuves. Nous devons être des chrétiens, alléluia, et nous devons aussi être des chrétiens, amen. Ça, c'est le bon équilibre. Une jambe, alléluia, et l'autre jambe, amen. Alléluia veut dire gloire à Dieu, et amen, que ta volonté soit faite, Seigneur. Amen, je veux aller jusqu'au bout. Amen, Seigneur. Je veux aller jusqu'au bout, quelles que soient les épreuves, les difficultés. Je ne veux pas seulement te suivre quand tout va bien. Je ne veux pas seulement t'aimer quand tu me bénis. Mais je veux aussi porter ma croix. Porter ma croix. Les difficultés, les épreuves. Je sais que je passerai par là. Il vous a été fait la grâce, nous dit l'apôtre, non seulement de croire en Jésus, mais encore de souffrir pour lui. C'est une grâce. La souffrance, porter sa croix pour Jésus, c'est une grâce. C'est un honneur. Certains considèrent cela comme une catastrophe. Comme une punition de Dieu. Ce n'est pas vrai. C'est une grâce. On l'oublie, cela. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour que on s'oppose à moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour que je passe par l'épreuve? Mais Dieu nous dit, mais c'est une grâce. Tu n'as rien fait. C'est une grâce. Mais c'est un honneur. Il t'a été fait la grâce, non seulement de croire en moi, mais encore de souffrir pour moi. Alléluia. Ôte cette pierre de ta poche, ce refus de souffrir. Seulement, Seigneur, chrétien, alléluia, je te loue. Oui, il faut être chrétien, alléluia. Il faut l'être, on ne l'est jamais assez. Toujours le louer, le bénir, le remercier de tout notre cœur. Mais il n'y a pas que cela, il faut l'équilibre. Il y a la louange, il y a aussi l'obéissance. Amen. L'obéissance. Jusqu'à la mort, jusqu'à la fin. Qui vous a dit que la vie chrétienne est une vie qui n'aura pas de difficultés, d'épreuves, de souffrances? Qui vous a dit cela? Jésus ne nous a jamais promis cela. Il a dit au contraire, mais prenez courage. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Alléluia. Le refus de souffrir. Ah, il y en a dès que la moindre souffrance, l'épreuve, tout de suite il dit, oh frère, priez pour moi, j'ai cette épreuve. Qu'elle s'en aille le plus vite possible. Et laissez-moi dire une chose, si vous voulez qu'une épreuve s'en aille le plus vite possible, eh bien, il faut dire Seigneur, merci. Merci pour cette épreuve que tu utilises pour me faire grandir, pour m'attirer à toi et pour te glorifier dans ma vie. Amen. Plus vous demandez à une épreuve, quelle qu'elle soit, d'être ôtée, plus elle durera. Mais plus vous dites, Seigneur, eh bien, je suis prêt à aller jusqu'au bout avec toi, quelle que soit l'épreuve, quelle que soit la souffrance, quelles que soient les difficultés, Seigneur, je suis prêt à aller jusqu'au bout. Généralement, cette épreuve ne dure pas longtemps. Il y en a un autre qui vous attend, mais ce sera comme ça jusqu'au bout. Mais les épreuves, loin de vous affaiblir, vous fortifieront. Ce qui fait qu'une épreuve après l'autre, quand vous êtes vainqueur dans une première épreuve et que vous avez bien réagi dans l'épreuve, vous dites, Seigneur, je me réjouis de la prochaine épreuve. Alléluia. Celle-là m'a fait tellement de bien. J'ai tellement appris. Je ne suis plus le même. Cette épreuve m'a fait tomber à genoux. Cette épreuve m'a rapproché de toi. Cette épreuve m'a appris à me confier en toi. Cette épreuve m'a appris à pardonner. Cette épreuve m'a appris à aimer les ennemis. Cette épreuve m'a permis de me tenir devant ta face. Les temps d'épreuve sont toujours des temps de bénédiction. On ne le comprend pas tout de suite. Mais ce sont des temps de bénédiction. Et le chrétien qui refuse continuellement l'épreuve, la souffrance, les difficultés, c'est un chrétien qui n'ira jamais loin. Qui n'ira jamais loin. C'est un chrétien gâté, égoïste, qui ne pense qu'à lui-même. Il ne peut remporter les victoires. Ôtons cette pierre. Amen. Soyons des hommes. Et quelle que soit l'épreuve, les difficultés, allons de l'avant. Amen. Quatrièmement, il est dit ici, au verset 3 toujours, « Considère en effet celui qui a contre sa personne, une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. » Un quatrième obstacle, c'est le découragement. Le découragement. Alors là, ça c'est l'arme que le diable utilise par excellence. Le découragement. Là encore, nous passons tous par des moments de découragement. Ce n'est pas un péché de passer par le découragement. Mais ça devient péché lorsqu'on succombe au découragement. Et quelles que soient les difficultés, nous devons nous relever et aller jusqu'au bout. Amen. Le juste tombe 7 fois, mais chaque fois il se relève. Regardez-moi ça. Autrement dit, il ne se laisse pas décourager. Il n'est pas parfait. Il est comme les autres. Il lui arrive de faire des erreurs. Il lui arrive d'avoir des difficultés, des problèmes. S'il peut tomber, mais chaque fois il se relève. Il est déterminé à aller jusqu'au bout. Amen. Le juste tombe 7 fois, mais chaque fois il se relève. Regardez-moi ça. Autrement dit, il ne se laisse pas décourager. Il n'est pas parfait. Il est comme les autres. Il lui arrive de faire des erreurs. Il lui arrive d'avoir des difficultés, des problèmes. S'il peut tomber, mais chaque fois il se relève. Il est déterminé à aller jusqu'au bout. Amen. Ne vous laissez pas décourager, mes amis. Vous savez qu'une personne découragée, Dieu ne peut jamais utiliser une personne découragée. Mais le diable utilise toujours une personne découragée. C'est quand vous êtes découragé que vous commencez à faire des bêtises. N'est-ce pas vrai? Quand vous êtes découragé, le diable vient. Tu vois, ils t'ont tous abandonné. Personne ne tient compte de toi. Personne ne t'aime. Allez, tu peux retourner dans ton... Tu peux recommencer ce que tu faisais avant ta conversion. Une fois, vas-y, tout le monde t'a abandonné. T'as laissé tomber. Et dans ces moments de découragement, vous en êtes dans un tel... Vous êtes dans un tel état de dépression que vous dites, eh ben, bon, ben, tant pis, au point où j'en suis, de toute façon, tout le monde est contre moi. Si je recommence à faire ça, qu'est-ce que ça peut faire? Et quand nous sommes découragés, nous faisons des choses que nous ne ferions jamais lorsque nous sommes obéissants au Seigneur. N'est-ce pas vrai? Quand on est découragé, on fait beaucoup de choses que l'on regrette après. C'est pourquoi nous devons refuser le découragement. Amen. Refuser. Et nous devons aussi nous encourager mutuellement. C'est important. Nous devons apprendre à nous encourager nous-mêmes. Mais nous devons aussi apprendre à nous encourager. Encourage ton frère. Encourage ta sœur, encourage ton mari, encourage ta femme. Voilà une bonne nouvelle année. Si tu prends déjà simplement la décision d'encourager ton mari, ta femme, tes enfants, Alors là, tu vas passer une année extraordinaire. Il y en a qui ont le don de décourager le mari ou la femme. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas... Mais je t'avais bien dit. Je t'avais bien dit, tu t'as fait exactement ce qu'il ne fallait pas faire. Tu vois, quand tu fais ça, tu ressembles exactement à ton père. Je vois exactement, j'ai étudié le caractère de ton père. Et tu fais exactement comme lui. J'ai l'impression que tu ne changeras jamais. Voilà comment la femme encourage son mari. Encourage ton mari. Chérie, ça ira mieux. Le papa était comme ça, mais moi, je te connais, tu es mon mari. Le Seigneur est en toi. Et il peut faire toutes choses nouvelles. J'ai confiance en toi. Je crois en toi. Alléluia. Un jour, un fameux prédicateur en Suède avait commencé son ministère dans des églises officielles comme cela, qui ne croyaient pas au baptême dans le Saint-Esprit, à la guérison, au miracle, tout cela. Ils ne croyaient pas. Lui-même a fait l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Et un jour, l'église officielle s'est rassemblée et ils l'ont placé devant le Sanhédrin. Et ils lui ont dit maintenant, nous dans nos églises, on ne croit pas cela, tu le sais d'ailleurs. Il faut que tu rejettes toutes ces choses. Sinon, tu ne pourras plus faire partie de nos églises, ce sera terminé. Et ce jeune pasteur venait tout juste de se marier. Et il était là, seul avec sa femme. Quand tous ses pasteurs se sont dressés contre lui et contre eux. Il a dit à leur mère, tu dois prendre la décision. Tu dois abandonner ces choses, sinon tu quittes nos églises. Ce jeune homme était bien sûr tremblant et il s'est adressé à eux et leur a dit, je veux obéir au Seigneur. Et en sortant, sa femme qui était là lui a dit, écoute chérie, si tout le monde te rejette, moi j'ai confiance en toi. Moi j'ai confiance en toi. Je t'aime et je sais que Dieu va t'utiliser. Si tous te rejettent, si tous te découragent, moi je suis avec toi. Ne l'oublie pas. On peut partir, ils nous rejettent, peu importe, mais moi je me tiendrai toujours avec toi. Je me tiendrai avec toi. J'ai confiance en toi. Ce jeune homme est sorti et il est devenu l'un des plus grands prédicateurs de la Suède. Il est décédé maintenant, son nom est Levi Petrus, ceux qui ont lu des livres. C'est lui qui a presque commencé le mouvement de réveil en Suède. Il a fait une œuvre colossale. Pourquoi ? En est-il arrivé là ? Parce qu'il avait une femme qui savait l'encourager au bon moment. Marie, encourage ta femme. Femme, encourage ton mari. C'est très important. C'est très important. Très important. Amen. Un couple qui s'encourage mutuellement peut subir les plus grands assauts extérieurs et tenir ferme. Mais lorsque le mari et la femme ne s'encouragent plus, la plus petite opposition extérieure les fera tomber. Mais s'ils sont unis et s'encouragent mutuellement, les plus grandes oppositions de l'ennemi, de l'extérieur, ne pourront les faire tomber. Alléluia! Femme, tu as une puissance extraordinaire pour encourager ton mari. Encourage-le. Il n'est pas parfait, c'est vrai, mais encourage-le. Marie, encourage ta femme aussi. Encourage, elle n'est pas parfaite. Elle ressemble un peu à la grand-mère des fois. Ça fait rien. Ça fait rien! Encourage-la, c'est ta femme. Encourage-la. Et tu verras que tu iras loin. Amen. Vous avez pu dire alléluia quand même. Bon, on va plus loin maintenant? Oui, allons-y. Alors après, cinquièmement, qu'est-ce qu'il est dit? Un peu plus loin, mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Et il frappe de la verge ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Alors, le cinquième obstacle est celui-ci, c'est le rejet de toute discipline. Le Seigneur châtie, le verbe châtier dans le texte grec veut dire corriger, éduquer, discipliner. Châtier, c'est un peu trop négatif. Mais c'est plutôt dans le sens d'éduquer, de corriger, de discipliner quelqu'un. Et vous savez, Un athlète, s'il veut aller jusqu'au bout, il faut qu'il soit discipliné. Le refus de toute discipline est un signe certain que nous n'irons pas jusqu'au bout. Alors le cinquième obstacle qu'il nous faut enlever, c'est ce rejet de toute discipline. De toute discipline. Le Seigneur sait ce dont nous avons besoin. Et quelle que soit la discipline par laquelle il nous fait passer, vous devez réaliser une chose, que c'est un signe d'amour de sa part. Le Seigneur corrige, discipline celui qu'il aime. Et bien souvent, lorsque le Seigneur nous discipline, qu'est-ce que nous disons? Notre réaction est celle-ci. Qu'ai-je fait, Seigneur? Nous voyons la discipline comme une punition du Seigneur. Et, ah, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour que je sois là? Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai fait? Nous considérons la discipline comme une punition. Mais Dieu te dit cet après-midi, le Seigneur corrige, discipline celui qu'il est. La discipline n'est pas une punition du Seigneur. La discipline est un témoignage d'amour du Seigneur. Alléluia! Un enfant, quand vous le disciplinez, il pense qu'il est puni. Mais c'est plus tard qu'il viendra vers vous, qui vous dira, papa, maman, merci. Merci de m'avoir discipliné dans de telles circonstances, j'en avais besoin. Je ne le comprenais pas à ce moment-là, mais maintenant je le comprends. Et je vous remercie d'avoir fait cela. Sur le moment, tu ne comprends pas pourquoi Dieu te discipline. Tu ne comprends pas. L'homme naturel résiste à tout cela. Mais plus tard, tu le comprendras. Et si tu dois passer par ce chemin, c'est que tu en as besoin. C'est que tu en as besoin. Ah oui. Quand j'étais missionnaire en Afrique, on était missionnaire. Nous étions sur une station avec un autre couple missionnaire. C'était la bagarre continuellement. Aïe, aïe, aïe. Quelle difficulté, quelle souffrance. On n'arrivait pas à s'entendre. Et je vous avoue franchement, j'ai réagi bien souvent négativement. Mais je ne comprenais pas. Je pensais que ces missionnaires étaient un obstacle sur notre chemin. À cause d'eux, je pensais qu'on ne pouvait pas faire le travail qu'on devait faire là-bas. Et vous pensez que j'étais parti en Afrique pour tout casser là-bas, moi? Ah oui, on était parti en Afrique, j'ai dit, mais vous, les autres missionnaires, vous savez rien du tout. Ça dort. Vous allez voir maintenant ce qui va se passer avec moi. Et ces missionnaires étaient là. Chaque fois qu'on faisait quelque chose, pouf, ils faisaient le contraire. Ils n'étaient pas d'accord. Vous auriez bien mieux fait de rester à la maison. Et il y avait ces obstacles continuellement. Je ne comprenais pas. Et je réagissais contre eux. Et c'est plus tard, quand on est rentré en France, que le Seigneur a parlé à mon cœur. Et il m'a dit, je les ai justement placés sur ton chemin, afin de purifier. Parce qu'il y avait en toi des choses qui devaient être ôtées. Et je les avais justement placées sur ton chemin pour une bénédiction précise dans ta vie. Je l'ai compris plus tard, et après je l'aurais écrit, en disant, je vous demande pardon d'avoir eu une telle attitude. Je n'ai pas été un bon témoignage. Je vous demande pardon. Vous savez, moi, j'étais plutôt obsédé par mon travail, par l'œuvre. Je veux faire ceci, je veux faire cela. Mais Dieu, lui, était plutôt obsédé, non pas par l'ouvrage, mais par l'ouvrier. Nous regardons à l'ouvrage. Et on veut faire ceci, on veut faire cela, on doit faire ceci, voilà. Mais Dieu s'intéresse davantage à l'ouvrier qu'à l'ouvrage. Car un bon ouvrier fera toujours un bon ouvrage. Mais un mauvais ouvrier fera toujours un mauvais ouvrage. Amen. Alors c'est pourquoi nous avons besoin de passer par la discipline. Et combien acceptent cela? Je le vois. Je le vois. Depuis des années de conversion, que de chrétiens végètent uniquement parce qu'ils n'ont pas accepté la discipline du Seigneur. Telle épreuve négative, telle difficulté les ont complètement paralysés. L'amertume est entrée en eux. Vous ne pouvez plus rien leur dire. Et quand vous demandez quelque chose, « Ah oui, mais c'est... » Voilà, c'est à cause de lui. Vous voyez, moi j'aurais pu rester pendant des années à cause de ces missionnaires. J'aurais pu m'enfermer dans mon petit coin ici. Mais à cause d'eux, eh ben, je n'ai pas pu faire mon travail en mission. À cause d'eux. Voilà, s'ils les revoient, je vais leur faire des choses. J'aurais pu avoir cette attitude-là de rancune, de haine presque, j'allais dire. Mais Dieu avait permis cela. Mon frère, ma soeur, écoute-moi bien. Tu es peut-être dans des circonstances difficiles, mais Dieu l'a permis. Ne te régimbe pas. Avant l'ouvrage que tu veux faire, Dieu est en train de façonner l'ouvrier. Amen.
de façonner l'ouvrier. Laisse faire le Seigneur. Confie-toi en lui. Réagis de la bonne façon. Pardonne, même s'ils font mal. Laisse tout cela entre les mains du Seigneur. Mais toi, réagis de la bonne façon. Amen. Ce qu'ils te disent, ce qu'ils font est peut-être mal. Mais toi, tu ne dois pas rendre le mal pour le mal. Tu dois surmonter ce mal par le bien. Amen. Ce mal, par le bien, tu dois le surmonter. Et tu dois réagir positivement. Afin que cette épreuve soit une bénédiction pour toi et non une malédiction. Que rien ne t'arrête. Que rien ne vous arrête. Acceptez la discipline. C'est un témoignage d'amour. Et vous savez, quand un jour on sera au ciel, et que le Seigneur nous montrera toute la discipline par laquelle il nous a fait passer, et on va lui dire, Seigneur, merci. Quand on comprendra pourquoi nous avons passé par tel ou tel chemin, nous comprendrons alors que c'était la main d'amour du Seigneur qui était en train de nous façonner, nous ciseler, nous transformer. Et on avait justement besoin de ce que nous refusions le plus dans notre cœur. Ce que nous rejetons le plus, c'est ce dont nous avions le plus besoin. En général, c'est cela. Quand quelqu'un résiste violemment dans un domaine particulier, c'est qu'il avait justement besoin de passer par là. Dites, Seigneur, merci, ça fait mal, mais je veux que tu me purifies, je veux que tu me transformes, et je veux sortir de cette discipline plus forte qu'avant. Amen. Car le but de la discipline et de l'épreuve, c'est de vous rendre plus pur et plus fort. Voilà les deux buts de la discipline. Ce n'est pas une catastrophe, ni une punition, la discipline. Dans le plan de Dieu, la discipline, l'épreuve a deux buts précis. S'il vous plaît, réalisons bien ces choses, car c'est là que beaucoup tombent. L'épreuve a deux buts. Te purifier, enlever tout ce qui est humain, toutes ces réactions charnelles, toutes ces attitudes mauvaises, ces paroles blessantes, cet orgueil qui est là. Dieu veut purifier cela. L'épreuve te purifie et te fortifie aussi. Amen. Te fortifie. Dieu veut qu'à la fin de cette épreuve, tu sois plus fort que lorsque tu y es entré. Alléluia. Gloire à Dieu. Ne rejette pas la discipline. Parce que tu es un enfant du Seigneur. C'est par amour qu'il te fait passer par là. Réjouis-toi. Car Dieu fera concourir toutes choses pour ton bien. Amen. Sixièmement, au verset 15, il est dit, « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs en soient infectés. » Le sixième fardeau que vous devez enlever de votre cœur, c'est l'amertume. L'amertume. L'amertume qui est là, la racine d'amertume qui pousse des rejetons et produise des troubles. Cette amertume, nous devons aussi, une fois pour toutes, l'enlever de nos cœurs. Amen. Vous savez, c'est une racine. Souvent, ça ne se voit pas quand vous regardez une personne comme cela. On a l'impression que la personne est très bien. Mais c'est une racine. C'est quelque chose de profond qui est là depuis des années et que nous n'avons pas voulu régler dans nos vies. Cette amertume contre l'un, contre l'autre, contre son patron, contre Dieu, contre son voisin, contre son pasteur, contre sa femme, contre son mari, contre ses enfants. Tout cela parce qu'on n'a pas voulu pardonner comme Dieu nous demande de pardonner. L'amertume est un fardeau qui vous écrasera, qui vous empêchera de courir et de remporter la victoire. Rejetez cette pierre. Rejetez. Dès qu'il y a quelque chose en vous qui essaye de venir pour vous aigrir et vous dresser contre quelqu'un, pardonnez. Pardonnez, c'est du poison. L'amertume est un poison qui vous détruira. Spirituellement, mentalement, physiquement, vous ne pouvez pas accepter l'amertume. Vous devez être libre. Même un athlète qui a de l'amertume dans son cœur ne sera pas libre pour courir. Il ne sera pas pleinement lui-même. Vous savez, quand vous avez de l'amertume, vous êtes littéralement obsédé par la personne qui vous a fait du mal, n'est-ce pas vrai? Vous êtes constamment en train de penser à la personne. Vous voyez, vous êtes esclave. Vous ne pouvez plus vous donner 100% à ce que vous faites. La pensée de l'autre vous obsède continuellement. Le matin, vous vous levez, vous pensez à la personne. Le soir, vous vous couchez, vous pensez à la personne. Vous êtes paralysé dans vos actions. C'est quelque chose qui vous paralyse et qui vous empêche de vous élancer dans la carrière pour remporter la victoire. Pardonne, mon frère, pardonne. Détruis cette racine d'amertume. Élance-toi en vainqueur et pour vaincre. Alléluia. Pardonne comme ton père a pardonné. Si la personne a mal agi, c'est entre Dieu et elle. Mais toi, pardonne et va de l'avant. Amen. Racine d'amertume, je te détruis dans mon cœur. Je ne veux rien du tout. Gloire à Dieu. Et pour terminer, septièmement, il est dit ici, à ce que veillez à ce qu'il n'y ait aucun impudique ni profane comme Ésaü, qui pour un mais vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoi qu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Le septième obstacle, c'est l'amour du monde. Ésaü avec son droit d'aînesse. Pour lui, c'était plutôt le monde. Il voulait jouir du monde. Il voulait la bénédiction de Dieu, mais il voulait aussi jouir du monde. C'était là son problème, à Ésaü. Il y avait l'amour du monde. Il y avait l'amour de Dieu, mais il y avait l'amour du monde. Il y avait un mélange en lui. Son cœur était partagé. Et voilà pourquoi il a été disqualifié. Il s'est repenti, il voulait se repentir, mais il n'y a rien qui s'est fait parce que son cœur était partagé. Sa repentance n'était pas sincère. L'amour du monde, un cœur partagé, vous empêchera de remporter la victoire. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, nous l'avons entendu, n'est-ce pas? De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Mes amis, ce que Dieu demande, c'est un cœur tout entier pour l'Éternel. Amen. Un cœur tout entier. Dieu ne demande pas la perfection de chacun d'entre nous ici. Si Dieu attendait que vous soyez parfait pour vous utiliser, eh bien, il n'utiliserait personne. Personne. Mais qu'est-ce que Dieu réclame pour qu'il nous utilise? C'est un cœur entier. Entier. On peut être entier pour l'Éternel et ne pas être parfait. Êtes-vous entièrement à l'Éternel? Que tout amour du monde, vous le savez vous-même ce qu'il en est, que tout cela disparaisse et que vous soyez 100% pour le Seigneur. Puisses-tu être ou froid ou bouillant, mais parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Tiède, vous voyez, ni chaud, ni froid, entre les deux. Et Dieu ne refuse cela. La victoire est pour celui qui est bouillant pour le maître. Amen, bouillant, 100%. 100%, ne laissons rien attiédir notre flamme. Soyons 100% pour le maître. Tu feras des erreurs. Tu feras des erreurs. Tu n'es pas parfait, mais si tu es entier pour l'Éternel, pour ton Dieu, Dieu t'utilisera. Dieu t'utilisera. Soyons entiers. C'est pourquoi bien souvent nous sommes étonnés des bénédictions de Dieu dans la vie des gens. On voit certaines personnes qui apparemment sont bien, et puis voilà, qui sont vraiment très bien, très spirituelles apparemment, mais où la bénédiction de Dieu n'est pas sur eux. Tandis que vous voyez d'autres personnes, extérieurement, c'est pas formidable, impression que il n'y a rien de formidable. Mais Dieu bénit cette personne. Et souvent, nous n'arrivons pas à comprendre. Je dis, comment celui-là, regarde, depuis des années de conversion, tout ça, tout semble bien, et puis il n'y a pas de bénédiction. Tandis que l'autre, oui, on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses à revoir, et Dieu bénit. Où est la réponse? Où est la réponse? C'est que l'un a un cœur partagé, tandis que l'autre a un cœur entier pour le Seigneur. Amen. Un cœur entier. Mes amis, que Dieu nous aide. Si nous faisons quelque chose, donnons-nous entièrement, 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 et Dieu nous donnera du succès et nous permettra de remporter la victoire. Alléluia. Que cette nouvelle année soit une année où l'on se donne entièrement pour le Seigneur. Alléluia. Et quelle joie lorsqu'on se donne entièrement. Quelle libération. C'est quand notre cœur est partagé que nous sommes misérables, que nous ne sommes pas satisfaits. C'est quand nous vivons pour le monde et pour Dieu en même temps que nous ne sommes pas heureux. Mais quand nous nous donnons entièrement, quelle joie, quelle libération! Dieu nous donne les richesses célestes. Alléluia! Il y a des choses extraordinaires qui sont en réserve de ceux qui se donnent 100% pour lui. Que Dieu soit béni. Mes amis, courons pour remporter la victoire avec un cœur entier pour le Seigneur. Amen. Que le Seigneur nous donne cette mentalité d'un vainqueur. Soyons 100% dans ce que nous faisons. Et Dieu sera 100% avec nous. Et vous verrez de grandes choses. Cette année, les années qui viennent, Jésus revient. Sois prêt. Donne-toi entièrement. Ce n'est plus le moment de vivre des demi-mesures. Ce n'est plus le moment de plaire à l'homme et de plaire à Dieu en même temps. C'est le moment de plaire à Dieu et à Dieu seul. Alléluia. L'apôtre Paul disait, si je voulais encore plaire aux hommes, je ne serais pas un serviteur de Dieu. Plais à Dieu. Cherche à servir Dieu, à faire toute sa volonté, et sa bénédiction t'accompagnera. Alléluia. Et la joie sera dans ton cœur. La joie, le rayonnement, la bénédiction sera avec toi. Que Dieu nous bénisse et nous donne cette mentalité d'un vainqueur qui va pour vaincre et pour glorifier son Dieu. Amen. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Seigneur, nous te louons pour l'exemple que tu nous as donné toi-même. En vue de la joie qui t'était réservée, tu as souffert la croix. Et tu t'es assis à la droite du trône de Dieu. Tu as méprisé l'ignominie. Tout ce qui s'opposait à toi, toute cette opposition de la part des pécheurs qui se sont moqués de toi, qui t'ont rejeté, nul n'a pu t'arrêter. Aucune de ces méchancetés n'a pénétré ton cœur. Car tu surmontais tout le mal qu'on te donnait par le bien qui était en toi, par le pardon, par l'obéissance à Dieu, par la fidélité. C'est pourquoi tu as été jusqu'au bout et Dieu ton Père t'a fait asseoir à sa droite. Oh, merci Seigneur, et nous voulons aussi un jour régner avec toi. Donne-nous d'avoir cette mentalité d'un vainqueur et de vaincre, et tu nous feras asseoir avec toi dans les lieux célestes. Merci Seigneur, nous voici. Prends nos vies et que ta volonté s'accomplisse dès maintenant et à jamais. Amen. Amen.